Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission hebdomadaire du mardi 12h30 avec René-Joseph Irmana, Histoire de France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va nous parler d'une drôle d'affaire qui s'est passée pas très loin de chez nous. C'est l'affaire du Glozel. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, avant d'aborder l'affaire du Glozel, le mystère qui perdure du Glozel, qu'on a appelé, il y a eu une analogie avec l'affaire Dreyfus, mais enfin, en beaucoup moins grave. C'était l'affaire Dreyfus de l'archéologie. Certains en ont peut-être entendu parler. C'était célèbre, ça le reste encore. Voilà. Mais avant cela, je fais un petit retour arrière, comme j'en ai un petit peu la pratique, un post-it sur l'émission de mardi consacrée à Madame de Staël. Je vais vous lire un petit un extrait de l'ouvrage de Ghislain de Disbach sur sa biographie, et vous verrez sur ses obsèques avec une originalité qui évoque la famille Necker, le banquier Necker et sa famille, leur originalité. Voilà. Alors, je cite, soigneusement, c'est après sa mort, donc assez relativement brutal, au cours d'un bal chez Descazes, ou en rendant chez le ministre Descazes, voilà. Elle a eu un malaise. Bon. Et après sa mort, elle avait 50 ans, soigneusement embaumée par une équipe de chirurgiens et de pharmaciens, pénétrés de la dignité de la personne dont ils avaient lu les œuvres avec admiration. Voilà, l'auteur cite Friedlander dans sa relation, un auteur donc de l'époque. La dépouille mortelle gagne lentement Copé, donc en Suisse, accompagné par Auguste et Schlegel. Auguste, c'est son fils, Schlegel, c'est un proche, voilà, un ami. Les Broglie, donc c'est fille et gendre, Rocca, son dernier époux, qui meurt quelques mois après, il est très malade aussi, qui était tout jeune, elle l'avait épousé 48 ans, il en avait 25. Voilà. Rocca et Miss Randall, une proche qui l'a accompagné, à la fin, sont partis en avant afin de tout préparer pour la cérémonie à laquelle Rocca, trop malade, n'assistera pas. La veille, le duc de Broglie a fait ouvrir la porte murée du mausolée où Necker et sa femme flotte dans l'esprit de vin. Un grand drap rouge les recouvre, mais une partie du visage de l'ancien ministre apparaît, parfaitement conservée. Le cercueil a été déposé pour la nuit dans la chambre de Madame de Staël, et c'est de là qu'il repart le 25 juillet, porté par 4 membres, on est en 1817, par 4 membres du conseil municipal de Copé, qui veulent ainsi honorer la mémoire de la bienfaitrice des pauvres. Tous les habitants du village sont là, voilà. Il fait un temps superbe, avec un ciel d'un bleu compact et vif, sur lequel les Alpes se détachent, étincelantes. Dans le silence recueilli du cortège, on peut entendre, comme le nôtre, Bonstetten, donc c'est toujours un des proches de la petite cour de Copé, voilà, le chant des oiseaux et le bruit des feuilles froissées par le passage du cercueil. Celui-ci est placé, ainsi que Madame de Staël le souhaitait, au pied de la cuve de marbre où composent ses parents. Puis la porte est définitivement murée. Les amis de Madame de Staël sentent confusément que le meilleur d'eux-mêmes est enseveli avec elle et qu'une partie de leur existence s'achève ainsi, sans se douter que pour la plupart, c'est à elle qu'ils devront de survivre dans la mémoire des hommes. Voilà. Donc, c'était pour évoquer cet aspect, cette originalité. Ils étaient adeptes, les parents de Madame de Staël, le banquier Necker, ex-ministre, de la cryogénie. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours dans leur cuve aujourd'hui. Ou, voilà. Je voulais vous citer, je répète, en post-it ou post-scriptum sur notre dernière émission. Alors là, on aborde notre sujet du jour, l'affaire du Glozel. Alors, on va vous passer le premier intermède, justement, et qui évoque en entrant en matière, c'est le découvreur, entre guillemets, on va voir que c'est très contesté, controversé, Émile Fradin, c'était un jeune paysan de 17 ans, de Ferrières-sous-Sichon, au lieu dit, donc le Glozel, qui a découvert alors un trésor archéologique dans son champ, en le labourant avec son grand-père. Alors, on se retrouve dans 3 minutes.
Le Vareil, avant d'aller se jeter dans le Sichon, borde les terres des Mille Fradins.
Il faut vous dire d'abord que mon grand-père avait acheté cette propriété en 1919. Il a voulu défricher ce terrain pour faire un pacage pour les bêtes. Et c'est alors que le 1er mars, en défrichant, en labourant avec la charrue, avec mes parents, tout d'un coup, le sol de la charrue a heurté des pierres et une vache est passée dans une excavation. Nous avons sorti la bête et quelle n'a pas été notre surprise de voir des morceaux de tablettes, des bouts de vase, tout ça. Enfin, on a cru trouver un trésor. C'est le 1er mars 1924. Le lendemain, nous sommes revenus avec des pelles et des pioches. On a dégagé une véritable tombe dans laquelle il y avait même des ossements humains puisqu'il y avait un crâne presque entier. Et crâne presque entier que je regrette parce que je l'ai monté à la maison, ma grand-mère n'a pas voulu que je le rentre à la cuisine, elle avait peur. Et mon père disait, dans ces vases, il y a une fortune. Nous avons sorti des urnes tout à fait entières que nous avons cassées et dans lesquelles il n'y avait rien, il y avait de la terre. Et puis ça s'est dit dans le pays. Et alors, Mademoiselle Picandet est venue avec ses élèves, là. Elle a dit, j'ai reçu un circulaire de l'officier d'Académie de Moulins. Et si vous voulez, je vais lui écrire. Alors, elle a écrit. Et l'officier d'Académie a délégué M. Vip, procureur à QC, lequel est venu avec un certain comte de La Carelle, enfin, soi-disant un archéologue. Ils ont fait des fouilles, ils ont carrément fini de démolir la tombe. Moi, je leur disais, il ne faut pas démolir ça. Oh, si vous ne voulez pas qu'on étudie ça. Enfin, ils sont partis avec pas mal d'objets, puisque je leur en ai donné un plein panier. Et alors, Viple, ayant publié un article dans le bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais.
Monsieur le Président signale les résultats obtenus par Monsieur Clément. Il s'agit de sépultures dans des caissons formés de briques et de pierres muraillées sans mortier. Des subsides seraient nécessaires pour continuer. La société d'émulation manquant de fonds ne peut s'engager dans la voie des subventions. L'idée émise d'une souscription n'est pas acceptée.
D'ailleurs, Viple nous a dit, vous savez, ça n'a pas d'intérêt, mettez dans votre champ de culture ce qu'on a fait. Et c'est comme ça que le docteur Morlaix est venu là.
Donc, voilà, on vous a passé la voix de Émile Fradin, l'inventeur, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui découvrent des trésors archéologiques. Il était né, je pense, en 1898, puisqu'il est mort à 103 ans en 2010, hein, sans avoir parlé. On va vous dire pourquoi. Là, le film, le documentaire date, je pense, des années 60, il avait une soixantaine d'années. Donc, l'histoire commence le 1er mars 1924, voilà, au Glozel. Donc c'est à 25 km à l'est de Vichy, dans la commune de Ferrières-sous-Sichon. Et donc Émile Fradin, qui est âgé de 18 ans à l'époque, eh bien, avec son grand-père, laboure un champ. Et il se trouve que le père de Beu s'enfonce dans une excavation. Voilà. Ce lieu dit s'appelle, on l'appelle le champ des morts, ou on l'appelait le champ du Ranton, et on le rebaptisera le champ des morts à cause des squelettes qu'on va y découvrir ou des ossements. Donc les bœufs creusent une cavité qui cède sur leur marche. Donc découverte, c'est une fosse en apparence avec des briques au sol, et qui paraît vitrifié, une sorte de cave, paroi vitrifiée, voilà. Alors, des briques cuites, et puis briques qui forment un dallage, le fond, ou une tombe, voilà. On pourrait penser à une tombe. Alors, Émile, qui pense devenir instituteur, alors je ne sais pas s'il l'est devenu, parce que j'ai vu par ailleurs qu'il a eu, on lui a donné les palmes académiques. Il y a un mélange étrange, on va le voir, à la fois de récompense et de suspicion. Il y a même des contentieux, on a des procès, voilà. Et le site sera d'ailleurs classé, le site du Glozel, voilà. Malgré la controverse qui n'a jamais cessé de perdurer. Donc il s'interroge, il découvre déjà cette fosse qui semble une tombe, on l'a dit. Il prévient l'institutrice du lieu, Madame Picandeau, voilà, et qui elle-même prévient son collègue, Monsieur Clément, donc instituteur. Alors les deux préviennent l'inspecteur d'académie, la société d'émulation du Bourbonnais, et déjà un savant. On va voir que des savants éminents au cours des depuis 1924 à nos jours, hein, jusque dans les années 2000, enfin, vont s'affronter, se controverser, polémiquer. Il y aura les gloséliens et les anti-gloséliens. Voilà. Parce que, vous avez compris, les anti-gloséliens accuseront la famille Fradin d'être des faussaires, d'avoir inventé et même fabriqué, c'est peut-être là le questionnement, fabriquer ces faux. Voilà. Alors, on prévient déjà les autorités, et puis les autorités culturelles locales, si on peut dire, et puis un premier savant préhistorien, le docteur Capitan, s'intéresse au dossier. Voilà. Et donc, l'invention, entre guillemets, c'est-à-dire la découverte, livre le champ. C'est comme dans la fable de La Fontaine, j'avais prévu de la citer au début, un riche laboureur sentant sa fin prochaine, voilà, un trésor est caché dedans, en parlant de son champ, voilà. Et les découvertes se multiplient d'une richesse extraordinaire. On exhumera au total à peu près 3600 pièces. Alors il y a des haches, polissées, enfin, il y a des briques, des galets avec des caractères d'alphabet. Alors là, c'est des empreintes de main, des tablettes, et c'est ces tablettes avec des caractères d'alphabet qui interpellent, parce que ça remet en cause la doctrine en matière d'apparition de l'écriture, qui, d'après la doctrine officielle, est apparue au Moyen-Orient. Et là, c'est l'écriture, au vu de ces éléments, ces pièces, serait donc née en Europe. Voilà. Et alors, on évoque un site néolithique. Alors, il y a le paléolithique, alors c'est très complexe pour les nuls dont je suis, ou ceux qui n'ont pas dépassé le niveau de CM2 dont je suis. Donc voilà, il y a le paléolithique, je ne sais pas, X millions d'années jusqu'à 800 000 années. Ensuite, il y a le néolithique, qui est la période la plus récente, jusqu'à moins 9000, voilà. Donc, avant Jésus-Christ, bien sûr. Et puis, il y a une période intermédiaire, mais enfin, c'est d'une infinie complexité. C'est un peu le néolithique, c'est la période la plus récente. Alors, il y a notamment les Magdaléniens, hein, au cours des 12000 dernières années, voilà. Je n'irai pas plus loin, c'est justement pour vous, simplement une évocation. Alors, question, dès le départ, est-ce vrai, est-ce faux? Déjà, les doutes existe. Alors, donc j'ai dit, l'instituteur Clément vient sur place avec le procureur de la République. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi. Émile Fradin l'a cité, de QC. Donc, ils vont venir, ils vont d'ailleurs tout casser, comme des imbéciles. Et puis il faut dire aussi, je pense que la famille Fradin, c'est des paysans, petits paysans du lieu. Il semble qu'ils ont cassé ces urnes, pour voir, je pense, s'il y avait des pièces d'or peut-être à l'intérieur. Ils n'ont rien trouvé. Mais déjà, c'était quand même déjà du vandalisme. Hein, voilà. Alors, il y a ces signes gravés, et M. Clément, qui est instituteur, a des doutes, semble-t-il. Alors, je vous précise que je me suis référé notamment à un article d'Historia de 1974, à peu près. Et l'article d'Historia, alors l'auteur est carrément subjectif. Il est anti glosélien. Et d'ailleurs, cet article consacré au glosèle est intercalé dans un numéro spécial d'Historia, donc je répète, de 74, ou consacré au grand canular. Hein, donc d'emblée, c'est que l'auteur s'est fait une religion. Mais on verra qu'il y a beaucoup, il y a des pro-gloséliens et des pro-gloséliens éminents. Donc Monsieur Clément, l'instituteur, a des doutes aussi, parce que concernant les signes, notamment, pourrait avoir été copié, dit-il, sur des livres qui prêtaient au jeune Émile, qui a la vocation d'instituteur, semble-t-il, et avec des livres sur la préhistoire, avec des gravures. Et ces gravures auraient été recopiées, le cas échéant. Hein, c'est les mêmes gravures qui apparaîtraient sur les galets, sur les tablettes. Donc il a un doute, hein, mais ça pose quand même question. Voilà. Et donc les trouvailles se multiplient, je l'ai dit, alors en abondance. c'est déjà cette abondance, moi aussi, qui pose question. D'abord, je fais une analogie avec le linceul de Turin, on en avait parlé, le Saint-Suaire de Turin, faux ouvré. Et là, d'abord, ce nombre, comment un jeune homme de 18 ans, qui est quand même peut-être plus cultivé que la moyenne, mais aurait-il été capable de faire tous ces... de réaliser, il fallait vraiment être habile, et puis le nombre, l'importance, 3600 pièces. Alors il y a des bracelets, il y a des colliers, il y a des fragments de poterie, il y a des harpons magdaléniens, je vous dis le magdalénien, c'est les 10, 12 000 années avant Jésus-Christ. Il y a des figurines bisexuées en argile, il y a des récipients en forme de tête humaine sans bouche. Voilà. Au total, je l'ai dit, au moins 3600 objets exhumés du champ des morts. Et donc, un personnage va intervenir, un médecin vichysois, qui est passionné d'archéologie, le docteur Morlet. Et donc, il va s'instaurer un peu le manager. On constate qu'on l'a vu, l'instituteur, et puis alors, j'ignore pourquoi il y a eu cette présence d'un procureur, il n'y avait pas de pièces de contentieux à l'époque. Voilà. Donc, qui ont fait de la casse, ils avaient emporté des pièces aussi, voilà, pour les vérifier. C'était hyper abondant, hyper riche, ce site, hein, une mine, si on peut dire, de trésors archéologiques, voilà, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'est ce docteur Morlet qui va être un peu le mentor des milles, l'animateur, il va être le coordonnateur déjà des fouilles. Voilà. Et donc, il va louer le champ, à ferme, quoi. Peut-être que le dispositif serait prévu une clause pour les découvertes. Alors, je ne sais pas s'il serait à la famille Fradin ou partagé. Enfin, voilà. De toute façon, avoir la législation sur les découvertes à l'époque, qu'on appelle inventeur, vous savez, quand vous découvrez, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, mais il y a des dispositions, ça ne vous appartient pas, vous savez. Alors, est-ce qu'il y a une indemnité? Mais bon, ça n'est pas aussi simple, hein, quand on trouve ça dans son champ. Bon, allez, donc, il loue, il fait clore le champ, hein, et puis alors, dès cette époque, donc 27 par là, 24, 25, 26, 27, il y a eu un succès foudroyant. Alors, on est aussi à proximité de la station thermale, hein, du Wifi, donc il y a des cars arrivent, il y a une célébrité du site, des cars de touristes et de curistes qui viennent visiter, et puis une renommée internationale, hein, déjà. Alors, l'opinion publique, le monde savant commence déjà, les pros. Il y a les gloséliens et les anti-gloséliens, la polémique s'installe. Et il y aura de grands savants qui viendront sur place. Alors, certains pour, certains contre, certains dans le doute. Voilà. Par exemple, à ma connaissance, je crois que le père Teilhard de Chardin, qui était un jésuite, qui est mort en 55, voilà, qui était à la fois un théologien, un philosophe et un archéologue, est venu visiter le site. Mais je ne sais pas... pas la position qu'il avait dessus, mais il y a des savants, l'abbé Breuil, qui était le fondateur avant Yves Coppens. Aujourd'hui, Yves Coppens a été très connu, c'est un archéologue éminent, et avant lui il y avait l'abbé Breuil, qui était un peu le père, le pape de l'archéologie moderne. Alors, l'abbé Breuil est venu aussi sur le site, au début il pense que c'est un site authentique, alors je ne sais pas, du néolithique ou du paléolithique, mais après il émet des réserves, semble-t-il. Voilà. Alors les savants viennent sur place, j'aurais dit, au niveau international. Donc je répète, l'abbé Breuil, qui est célèbre, éminent, c'est le fondateur pratiquement, je pense, de l'archéologie. Ensuite il devient plus sceptique. Alors d'autres savants, dont les noms aujourd'hui sont pas connu dans le grand public, Monsieur Lotte, Monsieur Espérandieu, par exemple, qui sont des professeurs, ce dernier membre de l'Institut, eux sont convaincus. Le professeur Dépéré, qui est un géologue lyonnais, est convaincu. Et alors, le plus convaincu de tous, le fervent, c'est Salomon Reynac, alors éminent, Il est membre de l'Institut, il est conservateur du musée des antiquités de Saint-Germain-en-Laye. C'est un mandarin, on va dire. Et il est absolument pourri jusqu'à la fin de sa vie. Il sera un fervent glosélien. Voilà. Et donc, par contre, le collaborateur qui l'accompagne ou qui vient sur le site, c'est Moore de Ricci, R-I-D-C-I, lui est contre. Il considère que c'est un faux. Voilà. Et puis alors, internationalisation, si vous voulez, de l'affaire. Par exemple, un archéologue anglais, O.G.S. Crawford, alors lui, estime que c'est des faux. Il vient voir, il parle de pièces, alors je ne sais plus, les gens qui ressemblent à des biscuits de chien, quoi, mais lui, il est contre. Alors, Vaisson de Pradienne, autre archéologue éminent, lui aussi est contre. Hein, voilà. Par ailleurs, donc, il y a effectivement y a des éléments de doute. Alors, je me réfère à cet article, alors il est carrément, je répète, contre. Hein, donc, c'est une charge un peu, hein, puisque cet article auquel je me suis référé, je répète, l'auteur a fait sa religion, c'est un canular, voilà, ce sont des faux. Donc, il met en avant tout ce qui est contre, hein, c'est un réquisitoire. Alors, il y a des éléments de doute qui apparaissent. Oui, dès 1926, par exemple, par deux savants, alors de Brignon et de Lagardère. Donc, toujours, j'ai mal noté les noms, mais bon, ce sont des personnalités oubliées, enfin, de l'époque. Alors, eux, ils identifient, en 1926, un four de Verrier. Voilà. Et alors, il y a aussi le professeur Capitan, qui est un éminent, un savant, hein, le docteur Capitan, au cours de fouilles publiques, donc établit justement qu'il y a, semble-t-il, à l'emplacement, un four de Verrier. Il exhume notamment un fer, qui est en réalité un fragment, je répète, d'une canne de Verrier. Mais bon, les Verriers existaient sur le site, de façon claire, et identifiés jusqu'au XVIIIe siècle. Mais bon, ça pouvait remonter au Moyen-Âge, parce qu'on verra qu'à la fin, parmi les polémiques et les conclusions contradictoires des experts, il est possible qu'il y ait des objets de plusieurs époques, et des faux mélangés, mais des objets qui remontent notamment au Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle notamment, et notamment ce four de Verrier. Et puis, Simon Reynac, je vous dis, qui est passionné glosélien, il souligne que plusieurs époques peuvent s'insérer, les vestiges de plusieurs époques peuvent cohabiter, si on peut dire, sur un même site. Hein, voilà. Et notamment cette tablette gravée, peuvent paraître insolites et, je l'ai dit, évoquent, renversent toute la doctrine en la matière à propos de l'apparition de l'écriture, voilà, qui ne serait apparue en Occident et non pas peut-être en Orient, au Moyen-Orient, vers la Syrie, c'est la doctrine officielle. Voilà. Donc les fouilles continuent, petit musée s'installe, et puis, bien sûr, je l'ai dit, il y a des cartes touristes qui viennent, il y a un restaurant des fouilles, il y a, avec des enseignes, on fait de la publicité, c'est proximité de Vichy, donc c'est un site, une attraction, oui. Il y a des cartes curistes, je l'ai dit. Alors, il y a le thé de l'homme des cavernes. Hein. C'est une enseigne, un café, quoi. Les cartes postales sont vendues, voilà. C'est connu, célèbre. Et alors, un incident, semble-t-il, en septembre 1927. Alors là, c'est le conservateur du musée de Villeneuve-sur-Lot, Monsieur Vergne. Parce qu'on vient de toutes parts, encore une fois, les archéologues, les préhistoriens, toutes les spécialités visitent le site. Alors, mais là, je doute, je me demande si c'est vrai. Voilà, je répète, c'est un article à charge. Je le répercute comme suivant, puisque je m'y réfère, au cours d'un orage, il est sur place, violent orage, il se réfugie dans une étable abandonnée qui dépend de la propriété de la ferme des Fradins. Et là, il découvre, je répète, c'est assez surprenant, un atelier avec des outils de sculpteur, des gouges, des ciseaux à froid, des galets de schiste à demi sculptés. Donc, soi-disant, ce serait l'atelier du faussaire, mais ça interpelle quand même, parce que s'il y avait faussaire, l'atelier serait beaucoup plus caché, il serait dans une cave peut-être, ou dans un grenier, il ne serait pas ouvert à tous les vents. Hein, voilà. En 1927, alors là, Cézine, au plus haut niveau, c'est l'Institut international d'archéologie qui siège à Amsterdam, en Assemblée générale, décide de missionner une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête intervient sur place, on a les photos là, sur les revues. Conclut que, eh bien, il y a quand même des semble-t-il, certaines pièces qui seraient validées comme eh bien, remontant, je dirais, au néolithique, hein, vraiment préhistorique. Mais la conclusion générale, c'est la non-ancienneté, voilà, de l'ensemble des documents, en général. La réfutation, hein, voilà, de la validité. Nonobstant, bon, certains éléments qui pourraient paraître authentiques, mais bon, parmi l'ensemble, la masse. Et néanmoins, tout est contradictoire, je l'ai dit, le ministre ou le secrétaire d'État de l'époque, dans les années 27, eh bien, classe le site monument historique. Voilà. Et on verra que j'ai lu ça aussi quelque part, que Émile Fradin, au soir de sa vie, sera fait décorer des palmes académiques. Donc, si ça avait été un faussaire, autant de Jacques Lang, hein, autant dans les périodes récentes, hein, dans les années 95. Voilà. Donc, des contentieux vont éclater. Il y aura des contentieux au niveau pénal, hein, qui vont émailler cette histoire et la rendre encore plus célèbre, bien sûr. Alors, on va faire une deuxième pause. On va vous passer un dessin animé d'Arte, Sex and the City, vous laissez plein de drôderies. Donc on en prendra l'un de la série, par exemple à l'Est, il y a le néolithique ou le pèlerinage de Saint-Jacques. Enfin, on va en prendre un, peut-être on en passera un deuxième. C'est très drôle. Voilà. On se retrouve dans une minute et demie.
En moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute ? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Papa, maman, j'ai une nouvelle incroyable. Je viens de gagner 3 billets de tombola pour partir en famille en Russie sur les traces de l'ex-Union paléolithique.
Oh, mais c'est génial, mon chéri.
Depuis leurs histoires avec le volcan de Tchernobyl, j'ai pas trop confiance, moi.
Bienvenue à Saint-Pétersbourg. Cette ville a retrouvé son nom de l'âge de Pierre le Grand après s'être appelé longtemps d'Ardengrad.
Regarde, maman, c'est dans ce port qu'a commencé la révolution de 1917 000 avant Jésus-Christ.
Tu te souviens, Blog, ce qu'on a pu rêver en regardant le crustacé Potemkin?
Nous allons commencer par visiter du musée de l'anthropophage et ce soir voir spectacle au théâtre Darwinski.
C'est marrant, leurs stalagmites en forme d'oignon. Ils ont inventé l'agriculture ou quoi?
Nous sommes dans la galerie dédiée aux grands hominidés qui ont apporté la flamme de la liberté aux espèces du monde entier. Voici Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Darwin. Voici Iosif Tyrannosovitch Darwin.
C'est lui qu'on surnommait la petite pierre des peuples, non?
Sans lui, votre vallée serait encore dirigée par les fascistes. Voici ensuite le moins intéressant de nos présidents, Mikhail Gorodbachev. À cause de sa politique de roupestroïka, notre pays a failli être vendu au paléoligarque.
Enfin, votre Joseph Darwin, ça reste un personnage un peu controversé. C'est tout de même lui le responsable d'une des plus grandes extinctions d'espèces du Quaternaire.
Grossière propagande anti-mammifère, grâce à sa politique d'évolution planifiée, Union paléolithique est redevenue le flambeau de la préhistoire. Quatrième plan cannibale, avoir débarrassé la chaîne alimentaire de tous les Néandertals traîtres à la solde des impérialistes amphibiens.
Bon, bah, heureusement qu'on fait une pause au restaurant pour réchauffer l'ambiance, quand même.
De l'iguanodon fumé sur des blinis, j'adore.
Et ça, c'est quoi?
Ça, grotka. Alcool russe fabriqué dans caverne avec de la stalactite fermentée. Quand boire grotka, devoir porter toast à l'assistance.
Bon, bah, au darwinisme à visage humain.
À l'avenir radieux de l'évolution.
À l'amitié entre les poulpes.
Franchement, c'est génial ce voyage, non?
Ouais, mais j'ai un peu mal à la tête quand même.
En tout cas, c'est super de terminer par une soirée musicale. Les cueilleurs de la mer Rouge, ça reste antique.
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Oh non, je suis complètement déprimé.
Qu'est-ce qui se passe, Raoul?
Je viens de voir que ma cousine Diane fait partie du comité de soutien du Front Néandertal pour les prochaines élections.
Ah bah ça m'étonne pas tant que ça, hein. Depuis que Marion Cannibal Le Pen a annoncé dans son programme qu'elle comptait fermer les centres de planning pariétal, tous les militants anti-évolution pour tous ont rejoint le FN.
Ah ouais, j'imagine la gueule du gouvernement avec Frigide Lascaux et Christine Bouquetin.
C'est pas drôle, les mecs. Ils ont vraiment une chance d'arriver au pouvoir.
Oh, vous êtes tous un peu pessimistes quand même. Bah, c'est le premier effet de mode, les animaux de la vallée vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent quand même pas élire des mecs qui ont le culte du cannibale pétain et qui s'habillent en tenue folklorique de Waffen Sapiens.
Le pire, c'est que leur plan a parfaitement réussi. Grâce à la dédarwinisation du Front Néandertal, c'est devenu un parti parfaitement fréquentable. Maintenant, leurs idées ont contaminé l'ensemble de la chaîne du vivant.
Enfin, quand tu entends les discours de Marion Cannibale Le Pen, ça fait quand même froid dans le dos.
Ah ouais, mais ils y croient tous, hein. Sortie de la zone au roc, préférence néandertale, renvoi des amphibiens au fond des océans, c'est des thèmes hyper populaires.
Heureusement, on peut encore compter sur un sursaut des autres espèces au deuxième tour.
Tu parles, le parti Les Lémuriens a officiellement validé la stratégie du Nini, ni Sapiens, ni Néandertal.
Purée, mais c'est du suicide.
La seule qui est un peu gueulée, c'est Nathalie Kosciusko-Mammifère. Et encore.
Dans toutes les circonscriptions, j'appelle à un désistement en faveur du candidat le mieux placé dans la chaîne de l'évolution.
Ah bah tenez, regardez, il y a des images de leur dernier meeting à Saint-Volcan-du-Var.
Hominidés, l'heure de la reconquête a sonné. En moins 732 000, Charles Martel avait arrêté les arboricoles à Poitiers. Aujourd'hui, c'est à nous de mettre fin à l'invasion amphibienne. Je ne veux pas que mes enfants soient obligés de porter des branchies.
Je sens qu'elle va déraper.
Je ne veux pas que les paléocrates de Bruxelles nous empêchent de faire vivre nos traditions anthropophages. On en a assez de les entendre débiter des salades 30 000 ans avant l'invention de l'agriculture. Je ne veux pas que sous prétexte que l'on s'appelle Ben Mahmoud ou Abou Calamar, on ait le droit de toucher des allocations de la caisse primate d'assurance maladie.
Elle va déraper, je vous dis.
L'âge de pierre doit se battre pour conserver son identité paléolithique. Alors, je n'ai pas honte de vous le dire, n'en déplaise aux adeptes de la pensée unique. Il y a et il y aura toujours dans notre vallée une supériorité de la roche blanche.
Et voilà.
À l'instant.
Donc, émaillement de contentieux. L'affaire va évoluer, disons, et obtenir une célébrité, justement, par ces démêlés au niveau du contentieux pénal. Donc, un dépôt de plainte pour escroquerie est déposé auprès du juge d'instruction de Moulins par le président de la Société préhistorique française, dont le président est Félix Regnault. Alors, une perquisition est organisée le 26 février 1928. Les pièces du musée sont saisies et sont emmenées dans des caisses à Paris, à la police judiciaire, dans le laboratoire de la police judiciaire. Elles sont expertisées par le docteur Bayle, B-A-Y-L-E, et deux assistants. Donc le docteur Bell, qui est, semble-t-il, aussi un personnage un peu pas très clair, enfin qui est un peu glauque, voilà. Mais bon, et deux assistants également éminents, donc voilà, qui se faisaient passer pour docteur alors qu'ils n'avaient qu'une, je crois, une licence, hein, voilà, en archéologie, voilà, et qui avaient été, me semble-t-il, impliqués dans des affaires un peu douteuses. Bref, quoi qu'il en soit, les conclusions, eh bien, ce sont que c'est un faux, voilà. Les pièces sont fausses. Donc on rejoint la commission internationale d'Amsterdam, hein, les conclusions. Et donc il y aura toutefois un jugement et ça sera un non-lieu. Alors, là, tout ça, des sortes d'incohérences, un non-lieu dont bénéficiera Félix Fradin, voilà, Émile Fradin. En 1932, alors c'est l'inverse, c'est Émile Fradin qui pose plainte contre M. Dussault, qui est le conservateur du musée du Louvre, hein, et qui l'avait déclaré de, justement, de faussaire. Hein. À cette occasion, il y a une plaidoirie d'un avocat célèbre, un ténor du barreau, Maurice Garçon. Maurice Garçon, qui fait là, semble-t-il, sa première plaidoirie. Il est oublié aussi aujourd'hui, mais c'était des brillants ténors. De l'époque du barreau. Maurice Garçon défend donc monsieur Dussault, conservateur du musée du Louvre, voilà. Et toutefois, Dussault est condamné. Bon, c'est une condamnation symbolique, mais il est condamné, donc en diffamation. Voilà. Alors, l'épilogue, si vous voulez, il y a eu un certain oubli dans les vers les années 40. Voilà. Et puis d'ailleurs, pendant la guerre, les fouilles étaient interdites. On était bien sûr sous le régime de Pétain, de Vichy. Ils étaient interdits sans autorisation express. Voilà. Et toutefois, l'affaire revient quand même à l'ordre du jour dans l'actualité. Et notamment le professeur Reynac, je vous dis passionné et puis éminent quand même, hein, publie une chronique du Glosel. Voilà, il publie des livres sur le sujet et même une sorte de revue, hein, au Mercure de France, les éphémérides du Glosel. Voilà. Il y a une pérennité. Jusqu'à sa mort, il sera convaincu. Voilà. Et alors, le magazine Historia que j'ai, auquel je me suis référé, d'ailleurs c'est même dans les années 70, hein, c'est une édition ancienne, 70, avait, mais je répète, dans un esprit tout à fait contre, hein, un a priori contre le Glosel, anti-glosélien, semble-t-il, ils auraient proposé à Émile Fradin, émissionné en ce sens un expert, Roger Delorme, pour faire analyser les pièces avec des méthodes modernes, la méthode du laboratoire d'Oxford. Et Émile Fradin aurait donné son accord, sous réserve qu'il envoie lui-même les caisses, avec prise en charge par la revue, par le biais de la thermoluminescence, hein, voilà. Et semble-t-il, il n'a jamais donné suite, voilà, malgré les relances, donc ce qui induit, disons de façon tacite, l'auteur de l'article a douté de la sincérité, voilà, et à conclure, eh bien, je l'ai dit, à la fausseté, mais en réalité, c'est quand même beaucoup plus complexe. Voilà. Alors, il y a tout un tas de pérégrinations sur lesquelles on ne peut pas revenir. Je répète, on peut faire une analogie avec le Saint-Suaire de Turin. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire que, ça sera en conclusion, mais comment dire, le fait, d'ailleurs, le musée existe toujours, hein, on le visite en été, il y a un site près de Vichy, donc, et les gens viennent le visiter, mais depuis près de 100 ans, si on peut dire, il a acquis ses lettres de noblesse. Et même si c'était des faux, si on peut dire, c'est le musée de l'affaire du Glosel. Voilà. Et on peut se poser des questions aussi donc, sur le nombre de pièces. Alors il semblait, le questionnement aussi, c'est de dire on n'en trouve rien hors du champ. Il n'y a pas de découverte analogue. Tout est concentré là. Et puis, néanmoins, on peut s'interroger. Comment s'interroger sur le Saint-Suaire de Turin, comment un jeune homme de 18 ans, hein, un jeune paysan, vocation d'instituteur, mais il fallait avoir des mains très habiles pour fabriquer tous ces faux, et puis une telle quantité, 3600 pièces, voire plus, puisqu'il y en a qui ont été emportées. Voilà. Il y a eu une espèce de pillage au début. Donc c'est quand même assez surprenant qu'il ait été capable de faire ça. Quoi. Et apparemment, j'ai l'impression que la vérité, au final, elle est très contrastée. Alors, par exemple, en 72, un ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, dans la période contemporaine, Henri François, qui était en visite au Glozel, alors propose et obtient de faire analyser certaines pièces, justement par la datation au carbone 14, sur les débris organiques, enfin voilà, les eaux gravées. Voilà. Et puis, on propose d'utiliser aussi la thermoluminescence pour tout ce qui est céramique et terre cuite. Alors, trois laboratoires sont saisis et rendent des conclusions plus contrastées. Hein. Ce ne sont pas des faux, mais il y a des époques différentes. Ce qui paraît pas impossible, d'ailleurs, il y a des couches avec des strates successives, diverses époques. Alors il y aurait des ossements qui dateraient de 15 à 17 000 ans avant notre ère, hein, dont certains portent les gravures, des céramiques. Alors là, on dit que peut-être c'est les ossements, les critiques, qui sont bien anciens, mais que les gravures peuvent être plus récentes, enfin, les inscriptions. Les céramiques, 5 000 ans avant notre ère, les tablettes 500 ans avant Jésus-Christ, et puis une dent de bœuf serait datée de 50 ans après Jésus-Christ, carbone 14. Alors, idem, en 74, une équipe du centre de recherche de Grenoble, voilà, on passe le site au magnétomètre, voilà, et autres objets enfouis à découvrir. En 75, un congrès archéologique se tient à Oxford, il reconnaît l'ancienneté et l'authenticité du site, voilà, et donc reconnaissance par le ministère de la Culture, voilà. Mais je répète, les polémiques perdurent, et en 1979, on a 39 datations par une méthode moderne, la thermoluminescence, hein, sur 27 objets, alors là qui seraient les conclusions révèlent, alors pour certains, 300 ans avant Jésus-Christ, soit Gaule celtique et Gaule romaine, hein, période médiévale, 12e siècle, période récente, alors là, il y aurait aussi peut-être des faux. Ce serait donc un amalgame, hein, voilà. Donc tout ça est assez. La vérité est probablement multiple, multiface, hein, voilà. Mais l'idée du faussaire, ça pose question quand même, pour les raisons que j'ai évoquées. Hein, il faudrait vraiment une capacité, une habileté. Alors que là, je répète, il s'agissait d'une famille de paysans avec un jeune homme de 18 ans qui était ouvert. Mais comment tromper son monde, hein, tromper les plus éminents spécialistes, voilà. Et puis le volume des il faudrait vraiment que ça soit à grande échelle, hein, comme on l'a indiqué. Voilà. Alors, il semblerait aussi, suivant un rapport. Tout ça est très confus, il y aurait des bouquins à écrire, bien sûr, ils ont été écrits. En 1995, à la période récente, une commission, un rapport du ministère de la Culture, je pense qu'on était encore peut-être sous Mitterrand, Jacques Lang, voilà, à vérifier, c'est la dernière année de Mitterrand. On parle de vestiges d'un artisanat de verrerie avec l'option la plus significative et tout au moins majeure sur le site serait donc certains objets de l'âge de fer, mais voire enrichis de contrefaçon, mais aussi une dominante d'une occupation médiévale, donc vers le 12e, 13e siècle. Et jusqu'à nos jours, il y a eu un groupe de passionnés qui a créé un centre international d'études et de recherches sur le site et le mobilier de Glozel, voilà, formés de chercheurs, d'universitaires, français et étrangers, favorables à l'authenticité, et qui s'est réuni de 1999 à 2010, donc pendant 11 ans, sur le site pour évoquer le Glozel et organiser 12 colloques entre 1996 et 2009. Voilà. Et donc, voilà, ce sont des. Eux sont carrément pour. Et on reste, si je puis dire, sur notre fin, sur le doute, vrai ou faux. Alors, je pense que la vérité, ça c'est du petit bon sens, il me semble. La vérité peut être, je répète, multiple. Et sur le nombre, il y a des pièces authentiques avec diverses époques. Et on l'a dit avec la probabilité d'un atelier de verrerie du Moyen-Âge. Mais enfin, ça va du, je sais pas, du 5e siècle au 12e siècle. Hein, alors j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bas ou le haut au Moyen-Âge, mais c'est quand même des pièces fort anciennes, voilà, et qui méritent intérêt. Et puis même s'il y avait des faux au milieu, ce qui paraît comme, je sais pas, ça interpelle, même ces faux-là, comme je le disais, ont acquis droit de cité. Le mystère fait l'attrait, hein, de ce site. Hein. Et je répète, le musée, si vous allez sur Internet, et puis si vous y passez, moi j'ai eu l'occasion de passer devant, je n'ai pas visité, je pense que c'est un petit musée, il faut le visiter, bien sûr, puisque avec le doute, comme j'y reviens, eh bien, par exemple, le Saint-Suaire de Turin, ça a été validé, si on peut dire, même si c'est un faux. Là aussi c'est très contrasté, on ne le saura jamais probablement, même si c'est un faux depuis des siècles en ce qui concerne Turin, des générations de pèlerins, des millions de pèlerins l'ont vénéré, donc il a acquis ses droits de noblesse en quelque sorte. Et pour le Glozel, je pense que c'est ça aussi, hein. C'est le mystère qui fait l'attrait du site aussi, voilà. Il y a le doute, voilà, qui perdure. Et Émile Fradin, lui qui détenait la vérité, je l'ai évoqué au début d'émission, il a reçu les palmes académiques, hein, palmes que Jacques Lang, sauf erreur, mais enfin, j'ai trouvé ça, cette information. Donc, aurait-on décoré un faussaire quand même? Et puis, par contre, il n'a jamais parlé. Je l'ai dit, il est mort en 2010, à 103 ans, sans. Toujours, il a emporté son secret dans sa tombe. Mais enfin, c'est quand même pas. Comment dire, tragique, hein, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est passionnant et c'est plutôt réjouissant, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est pas très loin. Si vous avez l'occasion en été, eh bien, allez visiter ce petit musée, voilà, du Glozel. Voilà. Donc, je vais vous passer peut-être le dernier intermède. Je crois qu'on a du temps en rab. Mais bon, autre observation aussi, c'est la relativité de la parole des experts. On a les plus éminents experts qui sont en contradiction les uns avec les autres. Il semble aussi, donc c'est un aspect aussi sociologique, cette affaire du Glozel. Voilà. Ça nous ramène à l'humilité que n'ont pas ces experts, ces sachants. Hein. On le voit dans tous les domaines, depuis tout temps. Ils affirment, hein, de façon lapidaire, mais forcément, il y a des erreurs, ils se trompent. Hein, voilà. Donc, la vérité est plus difficile à cerner. Donc, en ce domaine comme en d'autres, on peut tirer cette leçon et ne pas croire aveuglément, encore une fois, la parole de l'expert. Autrefois, on disait qu'il fallait. Vous savez, à propos d'affaires pénales, je m'égare peut-être, il fallait croire la parole de l'enfant. Or l'enfant peut mentir, on le sait aujourd'hui, ou on peut le faire mentir. Les experts, c'est pareil, les experts qui savent et qui affirment. Et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion d'écouter, dans le cadre des missions de radio, j'ai entendu ça, c'est assez fascinant, un expert qui affirmait, c'était dans un domaine tout autre, politique ou voilà, il avait fait une affirmation démentie par les faits, voilà. Et je me souviens que c'était un auditeur qui l'avait appelé pour lui le mettre devant son affirmation antérieure. Vous étiez trompé. Alors déchaînement, j'ai oublié son nom. Enfin, eh ben il avait encore raison alors que tout le monde, c'était public. L'erreur était publique. Il s'était trompé, mais il affirmait que c'était pas ce qu'il avait dit. Que, voilà. Donc il faut pas croire. Il faut croire tout au moins. Garder des réserves et des distances avec les pseudos, hein, ceux qui s'installent, experts l'infaillibilité. Même le pape n'est pas infaillible. Il est infaillible pour tout ce qui touche à la religion, mais en général, il peut se tromper, et tous les hommes peuvent se tromper. Voilà. Et donc, l'affaire du Glozel en est une illustration passionnante et émouvante. Hein, voilà. Eh bien, nous allons nous quitter avec alors le film, la musique du film, parce qu'il n'y a pas de parole, hein. de Jean-Jacques Hano de 1981, La guerre du feu. Hein, voilà. Et donc je vous passe la musique de ce film qui est de Philippe Sard. Voilà, vous l'avez peut-être vu, un superbe film avec des grimages formidables sur la vie des hommes préhistoriques telle qu'elle est imagée par Jean-Jacques Hano. Eh bien, à bientôt. Alors je pense que on est dans l'avant, hein, puisque période de Noël, un Noël étrange, marqué par ce confinement qui perdure et cette menace, cette angoisse. Je vous parlerai d'un sujet religieux, un sujet spirituel. Je pense que ça sera bienvenu. Et je sais pas, j'avais une idée sur les. J'avais fait une émission sur Fatima, mais ben, au hasard, parce que je plonge dans ma bibliothèque. Qui est pas très organisée, mais qui est très abondante. Et donc, peut-être sur Fatima, le dernier secret de Fatima. Alors, c'est peut-être un rapprochement hasardeux, mais il y a eu une version officielle qui était là. Là, c'est vraiment du. Je m'égare un peu, mais bon, il y avait une version officielle qui était l'attentat contre Jean-Paul II. En 1978, voilà. Et en réalité, il semble que c'est contesté là aussi. Et c'est le secret de Lucie, Sainte Lucie. Et je me disais, alors ça va vous faire rire, je me demandais s'il n'y avait pas peut-être aussi une prophétie, parce que les deux autres, c'était une série de secrets, voilà, évoquaient la guerre, peut-être la guerre de 14-18, la guerre de 40, enfin, c'est assez mystérieux. Je me demandais si ça ne pouvait pas faire. Pourquoi pas une allusion à la période que nous traversons, à la période très anxiogène, d'épidémie. Voilà. Certains ont dit que ça pourrait être une menace pour l'espèce humaine. Enfin, pourquoi pas, parce que c'est quand même assez. C'est pas inusité dans l'histoire du monde, mais c'est quand même un phénomène. Puis à notre époque, là aussi, humilité, alors qu'on croyait avoir vaincu, on aurait pu croire qu'avec les moyens actuels, ben non. L'épidémie perdure et ces vaccins, on ne sait pas. Ils sont annoncés, mais ça fait peur aussi. Hein, voilà. Et donc, j'évoquerai peut-être ces secrets. J'avais fait une émission sur Fatima dans le passé, mais on va peut-être essayer d'évoquer ce secret. C'est un peu comme Nostradamus, oui, je pense, dans un style assez alambiqué, hein, un style inspiré d'écriture automatique, un peu en quelque sorte, difficile à interpréter. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec notre époque ? On le sait. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera un sujet spirituel à l'approche de Noël. Voilà. Eh bien, on va terminer avec cette musique du film de Jean-Jacques Hano, superbe, La guerre du feu de 1981. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.
Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Papa, maman, j'ai une nouvelle incroyable. Je viens de gagner 3 billets de tombola pour partir en famille en Russie sur les traces de l'ex-Union paléolithique.
Oh, mais...
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Sérieusement, vous en avez pas un peu ras-le-bol que personne ne prenne notre famille au sérieux ? Pas plus tard que ce matin, on m'a encore traité de guignol.
C'est sûr que dans la grotte des profs, on nous considère plutôt comme des personnages de comédie. Mais c'est bien, c'est positif, non ?
Si je devais compter le nombre de fois qu'on m'a comparé à Jean-Pierre Bactéry...
Ouais, enfin, si tu regardes le festival de Cannes, c'est toujours des drames anthropophages et des films d'auteurs hyper sinistres qui ont des prix. On n'a jamais vu un comique paléolithique être nominé dans la sélection naturelle.
Ils n'allaient pas non plus récompenser les invertébrés passent leur bac ou mon crustacé chez les nudistes.
On serait beaucoup mieux considérés dans la chaîne du vivant si on était moins drôle en tout cas.
Tu nous vois dans une mise en scène misérabiliste en train de sombrer dans la détresse troglodyte comme chez les mammifères d'Ardennes? On n'a pas le physique de toute façon.
Moi je dis que c'est carrément possible. Sans aller jusque là, on pourrait décider d'évoluer en direction d'une esthétique préhistorique scandinave, à la Iguane Bergman.
Ça c'est sûr, c'est pas du tout rigolo. En sortant de scène de la vie pariétale, votre père et moi on était limite prêts à divorcer.
Ouais mais finalement on s'est pris une murge à la caverne de Maître Canterre, ça nous a remonté le moral.
Bon bah pour une fois on pourrait essayer d'être désespérant et pas drôle, au moins le temps d'un épisode.
Et puis déjà vous avez tous des noms prédestinés. Blog, spam, web, .com, on dirait un catalogue d'acteurs suédois.
Pourquoi on s'appelle comme ça d'ailleurs?
Chut, arrête avec tes questions, tu vas encore faire marrer les gens. Une mère, une fille, une relation mère-fille. Tellement de douleur là où il devrait y avoir tellement de joie. Et l'automne de la vie. Tous ces non-dits.
Framtiden var bättre förr.
Ingen kuk är hårdare än livet.
C'est vraiment un épisode pas drôle, Spam.
Oui, Blog, un épisode pas drôle.
S'ils avaient été un poumon rigolo avec leur grosse queue, leur petite tête, les dinosaures n'auraient jamais disparu, Spam.
Oui, tu as raison, Blog. Une radio,
nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Le burrito d'iguanodon, c'est pour qui ?
It is for me, please.
Alors, ma chérie, comment ça se passe ces premiers mois à Palais Hollywood ? Tu as trouvé du travail dans le cinéma ?
Well, you know, pour l'instant, je suis encore serveuse au Crétacé Fried Chicken de Mammoth Drive dans la Cro-Magnon Valley.
Non, mais c'est normal, il faut savoir patienter pour évoluer.
Ouais, enfin, c'est quand même pas évident de se faire un nom à l'âge de pierre, à moins de s'appeler Sharon Stone ou Oliver Stone.
Regarde Rock Hudson, il est bien arrivé, lui.
La semaine prochaine, je fais un casting pour jouer dans un drame social réaliste. Jurassic Park ou un truc comme ça, je sais plus.
C'est bien, c'est un début.
En tout cas, c'est génial ce climat, à croire qu'ils n'ont jamais connu de glaciation. Tu veux pas nous faire visiter la ville? Si ça se trouve, on croisera des acteurs.
Papa, à Los Arboricoles, tout le monde est acteur.
C'est fou, on se croirait dans un décor de cinéma à ciel ouvert. Silex Boulevard. Tu te souviens, Spam? C'est dans ce film qu'Abilis Presley a chanté pour la première fois Evolution Rock.
Et là, c'est Bonobo Street, la scène dans 7000 ans de réflexion où Marilyn Lasco découvre la bipédie sur une bouche d'aération.
Pourquoi y a tout ce monde là-bas?
C'est Palais Hollywood Boulevard. Toutes les grandes stars ont laissé des traces d'ADN sur le trottoir. Les touristes essaient de retrouver leur vedette préférée.
Tiens, là, je te parie que c'est Fossil B2000. Ah, vous voyez, j'ai raison.
Et là, le Gina Lasco Brigida. On connaît tout de suite la mammifère, hein.
Devant, il y a le Quadrumans Chinese Theater, la salle de cinéma la plus célèbre de Los Arboricoles.
Qu'est-ce qu'ils jouent en ce moment? L'âge de glace, la famille pierre à feu, Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 000. Bah, si c'est pour voir tous les blockbusters du néolithique, autant attendre qu'ils passent à la télévision chez nous, hein.
Oh my god! Just look who is coming.
Hein?
Tu le reconnais pas? C'est Invertebrate Easton Ellis, le plus grand écrivain californien de toute la préhistoire.
Ah mais oui, j'adore! Tu sais, Blog, c'est l'auteur d'Amphibian Psycho, le polar avec ce serial cueilleur qui noie ses victimes au fond d'un marécage.
Ça t'intéresse, toi?
Il a été engagé comme script director par la métro Darwin Meyer, un contrat exclusif de 35 000 euros renouvelables pour être sûr de l'avoir sous la main quand on inventera l'écriture. Si ce mec me prend dans son écurie, je vous jure que je suis prête à renoncer à la bipédie.
Enfin chérie, ça va pas la tête?
I like your style. What's your name again?
My name, blood.com.
And you know, I can dance, I can sing.